La voix des jeunes.
Développer notre esprit critique et notre regard sur la société.
Favoriser notre capacité à communiquer efficacement.
À nous exprimer.
Mais aussi à écouter.
Comprendre les médias.
Prendre confiance en soi. Apprendre à gérer notre stress et nos émotions.
Partager nos opinions.
Savoir collaborer.
Tout en nous affirmant.
La voix des jeunes.
Le programme radiophonique d'Info RC.
Radio associative en milieu scolaire.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Romans et secrets. Ce thème sera exploré par des élèves de seconde du lycée Jules Froment qui ont lu et travaillé sur des romans dans lesquels nous avons un secret qui se dévoile progressivement. Ils ont ainsi participé au projet « À voix haute » proposé par la médiathèque Jean Ferrat d'Aubenas, dont l'objectif principal était d'améliorer la lecture expressive. Cette découverte se fera par une présentation des romans lus par les élèves, des lectures de certains passages associés à des extraits de musique qu'ils ont sélectionnés pour mieux faire ressortir l'ambiance des textes choisis. Le thème du secret est un bon ingrédient pour créer du suspense. La vérité se dévoile petit à petit et donne au lecteur l'envie d'en savoir plus. Aujourd'hui, dans cette première partie d'émission, nous verrons des romans qui parlent de secrets dans les familles et tout ce que cela peut engendrer comme questionnement et comme recherche pour découvrir la vérité. Certaines histoires pourraient avoir lieu dans le monde actuel et d'autres s'inscrivent dans le contexte de la Deuxième Guerre mondiale. Donc nous accueillons Benjamin et Clovis qui vont nous présenter un livre donc sur le thème du secret. Je leur laisse la parole.
Nous avons lu « Quand vient la vague » de Jean-Christophe Tixier et Manon Fargeton, publié en 2018. C'est l'histoire de Clément qui découvre que sa sœur Nina a fugué et il cherche pourquoi elle a eu l'idée de disparaître. Il va donc découvrir la vérité sur son père, puis un compte Instagram va lui permettre de retrouver sa sœur. Donc nous allons vous situer les deux extraits. Le premier se situe au milieu du livre, juste avant que le père de Clément s'absente pendant une semaine pour un voyage d'affaires à Nantes, et Nina, qui se trouve à Bordeaux, l'aperçoit et ressent de la colère envers son père pour lui avoir menti. Il décide donc de le suivre. Le deuxième poursuit le premier. Je ne dispose que de quelques secondes pour me décider. J'ai soudain l'impression de jouer ma vie sur un coup de dé. Ça me ressemble si peu. Il me faudrait du temps pour réfléchir, demander conseil. Que ferait Roman? Mais il est trop tard. Bientôt, mon père aura disparu au coin de la rue. Et si je dois entreprendre quelque chose, c'est maintenant ou jamais. Je laisse l'instinct me guider, attrape mon manteau sur la chaise, l'enfile. Je pose 3 euros sur la table, me demande affolé si c'est suffisant. Il ne manquerait plus que le barman me poursuive dans la rue. Je pousse la porte. Au revoir mademoiselle, bonne journée.
Soudain, mon cœur s'arrête de battre. Mon père a disparu. Il était là, devant moi, il y a quelques secondes. Par quoi me suis-je laissé distraire? J'accélère. Plus j'approche de l'endroit où il s'est évaporé, plus mes pensées sont confuses et ma respiration saccadée. Je regarde chaque porte comme si j'avais le pouvoir de voir au travers. Comment ai-je pu le laisser s'échapper? Je fais encore quelques pas, passe devant un bar, scrute l'intérieur, rien. Devant la boutique suivante, j'observe les mannequins qui ornent la vitrine, puis l'intérieur, l'homme qui se tient face au comptoir, et bien mon père. Que fait-il dans un magasin de fringues? Quand j'aperçois sur une étiquette la marque de la ligne de vêtements pour laquelle il travaille, la réponse balaye la question. La gérante doit être une cliente comme des centaines d'autres. Une fille de mon âge entre alors dans la boutique. Avant que la porte ne se referme, j'entends mon père l'accueillir. Ah, te voilà, ma chérie.
There is tranquility, emotional transparency surrounds us. Take my hand and we will stand side by side within this forest life. Rise up all united towards the midnight moon. Harmonized heartbeat. Of light, it shimmers, reflects endlessly on top of the river. Conduct our senses. Take my hand and we will stand side by side within this forest.
Nous avons entendu des passages musicaux qui illustraient vos textes. Est-ce que vous pourriez nous dire d'où est-ce qu'ils proviennent ?
La première musique est extraite de Sonate de violon numéro 2, écrite par Renaud Capuçon. La deuxième est écrite par Aphex Twin. Et la troisième est tirée de Midnight Moon, écrite par Edith Evensen.
Vous avez travaillé ces textes tout au long de l'année. Qu'est-ce que vous avez apprécié dans ce projet ?
Dans ce projet, nous avons apprécié découvrir une nouvelle histoire palpitante et la découverte de nouvelles musiques. Dans ce roman, nous avons principalement aimé les personnages et leurs sentiments. De plus, nous avons été intéressés par le mystère qui réside durant tout le scénario.
Nous passons au roman suivant, qui va nous être présenté par Louise. Bonjour Louise.
Je te laisse la parole.
Bonjour. Donc, j'ai lu Le Monde dans la main de Michaël Olivier, publié en 2013. C'est donc l'histoire d'un jeune garçon, Pierre, qui a 16 ans. Sa mère disparaît sur un parking Ikea, sans explication, à part un message d'adieu qu'ils recevront quelques jours plus tard. Ce roman est donc sur la vie de Pierre, qui va apprendre à vivre avec son père. Il a une sœur Alix qu'il ne voit plus, mais il garde un super lien par message avec elle. Ce livre est plein de rebondissements, il contient de nombreux éléments cachés sur sa famille, mais un seul de ses secrets nous fait donc comprendre pourquoi la mère de Pierre est partie. Ainsi, elle s'en va, car elle a eu un accident de voiture, et sa fille, qui était donc avec elle, est décédée durant celui-ci. Donc en fait, la sœur de Pierre est décédée, et Pierre lui la garde dans son cœur. Il nous fait donc croire qu'il lui parle par SMS. Je vais donc vous lire un extrait qui se situe au début du livre. Juste avant ce passage, Pierre se rend chez sa grand-mère et nous explique où elle vit et comment elle était avant de se retrouver en maison de retraite. Elle parlait fort et s'exclamait toujours. Toujours heureuse, elle donnait la joie de vivre à tout le monde. Il lui arrivait souvent de s'en mêler dans les prénoms, de m'appeler Patrick et mon père Pierre. Parfois même c'était le nom de son chien, pourtant mort depuis 15 ans, qui lui venait en premier. Mais là, je voyais bien qu'elle pensait vraiment avoir affaire à son fils, et ça m'a serré le cœur. C'est Pierre, mamie. Papa n'a pas pu venir aujourd'hui. Et ta mère non plus ? Non, je suis tout seule, j'ai répondu, rassurée de constater qu'elle savait enfin à qui elle s'adressait. Et ta sœur ? Je ne vois plus jamais Alix. Ça m'a noué encore plus l'estomac. Un double nœud. Mais mamie, tu sais bien. Elle ne m'écoutait plus et regardait ses mains. le front soudain barré d'une grosse ride soucieuse. « J'ai quelque chose à te dire. Approche. » Je me suis approchée et assise sur le lit. « J'aurais dû t'en parler plus tôt, mais ce n'est pas facile, on croit bien faire et puis on fait seulement ce qu'on peut. » À la mort de ton père, j'ai voulu tout te raconter, mais... C'était reparti, elle me prenait pour papa, mais cette fois j'ai laissé passer, intriguée de l'avoir si émue. Ses mains tremblaient un peu. White was water, lowers the tide, darker the fear, we rose to ride. You pulled me under, I held you there, together forever, everywhere.
Darkness, heaven, hell, over the distant pealing bells, ringing in hope without regret, the living and dying of spring are said. Turn for tomorrow, leaf over years, page after page. Bled our tears, foster disciple, dearest of none, bowing to no one, kingdom come. White was the water, low was the tide, darker the fear, we rose to ride, you pulled me under. I held you there together forever, everywhere.
Nous avons entendu des passages musicaux que tu as sélectionnés. Est-ce que tu peux nous dire d'où est-ce qu'ils viennent ?
La première est extraite de Nocturne de Tchaïkovski et la deuxième est tirée de Together Forever Everywhere de Pierce Fassini.
Et donc, est-ce que tu peux nous dire, Louise, qu'est-ce que tu as apprécié dans ce projet ?
Dans ce projet, j'ai apprécié d'être accompagnée par une personne de la médiathèque. De plus, les interventions de professionnels nous ont permis de mieux comprendre l'importance de la mise en voix. En classe, Madame de Raguenel nous a guidés et nous a donné des astuces pour nos textes et cela nous a permis une meilleure approche de ces derniers.
Maintenant, nous allons changer d'époque. Nous allons nous retrouver donc durant la Seconde Guerre mondiale avec deux livres. Donc dans un premier temps, Kylian et Sullivan vont nous présenter le premier roman.
Alors nous avons lu le livre Un secret de Philippe Grimbert, publié en 2004. Donc c'est l'histoire d'un enfant qui grandit avec ses parents très sportifs, Tania et Maxime, alors que lui est frêle. Le narrateur, Philippe Grimbert, qui est l'enfant dans le livre, s'est inventé un frère aîné, plus beau, plus fort, qu'il évoque devant les copains de vacances, les étrangers, ceux qui ne vérifieront pas. Et puis un jour, il découvre la vérité, impressionnante, terrifiante presque.
Nous allons vous lire deux extraits. Le premier se situe au milieu du roman. Juste avant, Philippe regarde un documentaire à l'école concernant les camps de concentration de la Seconde Guerre mondiale. Durant ce visionnage, il a tapé un de ses camarades qui rigolait des cadavres de la guerre. Ce document le mène à se questionner sur l'histoire de sa famille pendant cet événement. Il décide donc d'aller voir son amie d'enfance Louise, qui travaille dans le même bâtiment que lui.
Le deuxième se situe au milieu du récit. Juste avant, Philippe vient d'apprendre le secret, c'est-à-dire l'histoire de sa famille durant la guerre.
Louise vacillait. Elle en avait trop dit, mais ne pouvait pas en rester là. Elle me devait la vérité. Elle allait se défaire de son serment, trahir pour la première fois la confiance de mes parents. Elle m'aimait assez pour cela. Elle, qui n'avait jamais eu d'enfant ni allant croire de véritable amour dans sa vie. La vieille demoiselle allait se faire un devoir de rompre le silence pour celui qui lui ressemblait, marqué, comme elle, par sa différence, et je n'imaginerais plus être le premier, le seul. Plus Louise avançait dans son aveu, plus mes certitudes se défaisaient. Une trop forte émotion de ma part l'aurait freinée dans son élan. Aussi, je l'écoutais intensément, les yeux secs, maîtrisant mes réactions. L'histoire de mes parents, que j'avais voulu limpide dans mon premier récit, devenait sinueuse. Je parcourais leur chemin en aveugle, exode qui m'éloignait de ceux que j'aimais, pour me conduire vers des visages inconnus. Le long d'une route peuplée de murmures, je distinguais maintenant des corps allongés sur le bas-côté. Trois morts surgirent de l'ombre. J'entendis le nom pour la première fois.
J'avais 15 ans, et cette nouvelle donne changeait le fil de mon récit. Qu'allais-je faire de cet adjectif « juif » collé à ma silhouette décharnée, semblable à celle que j'avais vue flotter dans des pyjamas trop grands ? Et comment allais-je l'écrire sur mes cahiers ? Avec ou sans majuscule, un qualificatif venait s'ajouter à ma liste. Je n'étais plus seulement faible, incapable ou inapte. À peine la nouvelle venait-elle de tomber des lèvres de Louise, que déjà mon identité était devenue autre, curieusement plus forte. Ce n'étaient donc ni les privations, ni les réquisitions qui avaient poussé mes parents à tout abandonner pour se réfugier dans l'autre moitié de la France. Louise était-elle restée rue du Bourg-l'Abbé, comme il l'avait prétendu, à surveiller le magasin, ou faisait-elle partie du voyage ? J'avais tant de questions à poser qui n'avaient encore jamais franchi mes lèvres.
Donc, nous avons écouté des musiques qui ont illustré vos textes. C'est vous qui les avez choisies. Est-ce que vous pourriez me dire d'où est-ce qu'elles viennent, ces musiques ?
La première vient de la musique du Largo 4, de Kostakovitch, quatuor numéro 8, Borodine. La deuxième est extraite de Festina Lente d'Arvod Part. Et la troisième est un extrait de Berzina de Warren Ellis et de Nick Cave.
Dans ce projet que vous avez pu mener tout au long de cette année, est-ce qu'il y a des choses que vous avez appréciées enfin, qu'est-ce que vous avez appris ?
Dans ce projet, on a apprécié l'interaction avec les nombreux intervenants pour la mise en voix des textes, et nous avons appris à différencier le ton de notre voix et le sentiment associé à celui-ci.
De plus, nous avons bien apprécié le projet, car ça nous a fait prendre confiance en nous pour la mise en voix des textes. Cela va nous être utile pour plus tard.
continuons avec un autre livre qui se passe durant la Seconde Guerre mondiale. Nous accueillons Maëlie et Marion, à qui je laisse la parole. Donc, présentez-nous le livre que vous avez choisi.
Nous avons lu Sobibor de Jean Mola, publié en 2003. Ce roman évoque l'histoire du camp d'extermination de Sobibor et les conséquences dramatiques que peuvent avoir les non-dits dans les familles.
Nous allons vous lire deux extraits. Le premier extrait, il se situe à la fin, juste avant, le personnage principal est en train de finir le journal qu'elle venait de découvrir.
Et le deuxième extrait se situe aussi à la fin. Et avant, elle venait de découvrir un lourd secret qui allait la suivre toute sa vie.
J'ai refermé le cahier. Mes mains tremblaient, mes dents claquaient. J'avais mal, j'avais honte. De quelle espèce était ce monstre qui avait pu tenir son journal, consignant ses états d'âme avec une minutie satisfaite, indifférent aux hommes, aux femmes, aux enfants, qui descendaient des wagons et mouraient asphyxiés avant d'être jetés dans les fosses puis brûlés. Et cela, pour la seule et unique raison qu'ils étaient juifs. Je me suis allongée et je me suis blottie sous les couvertures. Je grelottais. Trop de questions s'entrechoquaient dans ma tête, dans une sarabande vertigineuse. Mamouchka, morte, j'ignorais toujours ce qui s'était passé après Sobibor. Où était-il allé? Quel était le plan qu'avait essayé de tramer Von Lebe pour leur permettre de s'en tirer et pourquoi n'avait-il pas fonctionné? Pourquoi Jacques Desroches avait-il abandonné ma grand-mère et comment était-il mort en Russie? Pourquoi Mamouchka avait-elle été épargnée et dans quelles circonstances avait-elle échoué dans cette ferme où travaillait mon grand-père? Enfin, comment avait-elle pu l'aimer si vite, après ? Ce carnet était comme une braise que j'aurais saisie à pleine main. J'en savais plus que quiconque, à présent. Que faire de ce secret ? En parler à mes parents ? Je les aurais blessés. À mon grand-père ? C'était inimaginable. J'avais appris qu'Anna, son Anna, avait attendu un enfant d'un autre qu'elle avait aimé plus que tout, au point de lui pardonner l'impardonnable.
Restait encore pour moi un mystère insondable. Comment ma grand-mère avait-elle pu vivre après cela? Les êtres humains peuvent-ils à ce point fermer les yeux et tirer un trait sur leur passé? Ne leur pèse-t-il pas davantage sur les épaules? Comment acceptent-ils de vivre avec leurs remords? Mamouchka n'avait certes tué personne. Elle s'était insurgée contre le crime qu'avait commis son compagnon d'alors. Mais avant, elle avait accepté de vivre dans un camp où l'on exterminait des êtres humains. Et cela, malgré son éducation, sa foi, complice de ces atrocités. Elle-même, si ce Jacques ne l'avait pas aimée, sans doute l'aurait-on froidement éliminée, comme la plupart des témoins des crimes commis par les nazis. La vie d'une petite Polonaise ne valait pas non plus bien cher à cette époque. Était-ce là le secret de cet amour pour Jacques? Une fascination morbide, une reconnaissance inconsciente, forcenée, parce qu'elle lui devait la vie, au point de tout accepter. Était-ce pour cela qu'elle aurait pu lui causer les pires ennuis, s'il avait été découvert? Petit à petit, une image de ma grand-mère, que jamais auparavant je n'aurais pu imaginer, m'est apparue. S'était-elle tournée par la suite vers mon grand-père, parce qu'elle avait vu en lui le seul moyen de se sortir de cet enfer? L'avait-elle aimé vraiment? Ma grand-mère n'avait-elle été qu'une médiocre, intrigante, passant d'un homme à un autre, au gré de son intérêt ?
Et alors, pourquoi avoir risqué 100 fois sa vie pour retrouver mon grand-père, plutôt que d'aller se réfugier en Pologne? Sa famille aurait sûrement cherché à la protéger.
Donc, nous avons entendu des musiques, des extraits de musique plutôt, que vous avez choisis. Est-ce que vous pouvez nous préciser d'où est-ce qu'ils viennent ?
Le premier est extrait de Red and Black Light. Nous l'avons choisi parce que la musique est plutôt tragique et mélancolique, notamment avec la trompette qui joue un son monotone et en même temps rude et aigu, avec du rythme. Celle-ci se rapproche de la situation du narrateur dans l'extrait suivant, une fille seule qui un jour découvre un lourd secret qui va changer le cours de sa vie et s'effondre en découvrant toute l'histoire.
La deuxième est extraite de Caravanserai. Nous trouvons que cette musique correspond bien au passage suivant, en effet par rapport au changement d'ambiance qui est mystérieux, lugubre. De plus, les notes du violon indiquent du tourment et de la fragilité. La musique du fond est en rythme accéléré, ce qui accentue la tristesse. Cela rejoint pour nous l'idée qu'elle est en souffrance.
Enfin, le troisième est extrait de Part Vencina Lente. Nous avons pris cette musique pour finir car l'ambiance fait penser à une fin dramatique et une tristesse pesante. Enfin, on peut voir qu'elle a de la rancœur avec les notes de violon très aiguës et en rythme lent et envoûtant.
Merci, c'est vraiment très intéressant. Donc ce projet, est-ce que vous pourriez nous dire, qu'est-ce qui vous a apporté ?
Donc dans ce projet, nous avons aimé travailler la mise en voix. Donc cela a été très intéressant, ça nous a permis de prendre confiance et d'exprimer ses sentiments. Et enfin, cela nous a permis d'être plus à l'aise à l'oral et donc de changer aussi notre manière de penser.
Donc maintenant, nous revenons à l'heure actuelle, on pourrait dire. Nous laissons la Deuxième Guerre mondiale de côté. Et donc Justine, Zoé et Célia vont nous présenter leur livre.
Nous avons lu La Maison des Oiseaux de Alan Stratton, publié en 2019.
C'est l'histoire d'une jeune fille, Zoé Bird, qui se fait harceler par sa cousine, qui est rejetée par ses camarades et incomprise de ses parents. Elle entretient une très forte relation avec sa grand-mère, Grace Bird. Mais cette dernière perd peu à peu la tête. Les parents de Zoé décident donc de la placer dans une maison de retraite. Cette situation est insupportable pour Grace. Celle-ci se met à demander la présence de Teddy, mais Zoé le pense mort.
Suite à une fugue, elle découvre des photos et des lettres récentes de lui. De plus, elle surprend une conversation entre ses parents à propos du numéro de téléphone de son oncle que son père avait conservé, mais n'avait jamais osé utiliser. Elle comprend donc qu'il est en vie. La jeune fille décide alors d'organiser l'évasion de sa grand-mère pour partir à la recherche de celui-ci, en espérant qu'il accepte de les prendre en charge.
Nous allons vous lire trois extraits.
Le premier extrait se situe au début de l'histoire. Zoé, pour se réconforter d'une mauvaise soirée, va se réfugier dans la maison aux oiseaux de sa grand-mère, qui est déjà dans la maison de retraite, sans donner de nouvelles à ses parents. Suite à cela, elle a l'idée de fouiller dans les vieux cartons de sa grand-mère qui sont sous le lit. En les cherchant, elle découvre des lettres entre sa grand-mère et son oncle Teddy et commence à les lire.
Le deuxième se situe au début, au chapitre 21. Juste avant cet extrait, Zoé fugue de chez elle et va se réfugier dans la maison de sa grand-mère, qui est vide. Elle se retrouve donc seule en pleine nuit.
Le troisième se situe vers la fin, au chapitre 35. Juste avant, Zoé et Grace Bird, qui sont toujours à la recherche d'oncle Teddy, se rendent dans un salon de tatouage nommé 2TZ Tattoo. Zoé effectue des recherches sur Internet. Elle espère obtenir des informations sur les amis de Teddy afin de pouvoir le retrouver.
Oncle Teddy a l'air vraiment cool avec ses cheveux bouclés, attachés en queue de cheval et ses grands yeux de Bambi. Dans la lettre suivante, il n'y a pas de photo. « Chère maman, je me réjouis d'apprendre que vous emménagez à la maison des oiseaux. C'est une bonne idée. Grand-père ne pourrait pas s'en sortir sans grand-mère. Désolée, mais je ne reviendrai jamais.
Avec papa, c'est impossible. Nous n'aurons qu'à nous voir ici. Suzanne promet de te faire un cheesecake quand tu viendras, en juin. Je lui rappellerai de graisser le moule, cette fois. Dis à Timmy que je ne suis pas comme le prétend papa. Je t'aime, moi. Je survole un tas de lettres qui font tout de suite à tes visites de mamie.
Plus tard, dans la nuit. Soudain, je me fige. C'était quoi ce bruit ? Rien, idiote, tu n'es pas dans un film. Arrivée au buffet, je cherche les bougies à l'aveuglette. Je récupère aussi un bougeoir et une boîte d'allumettes. L'air se déplace autour de moi. J'ai des picotements dans le cou. Il y a quelqu'un. J'arrête de respirer. Le silence est de plomb. J'allume la bougie et je tourne la tête. Un visage ! Je vois un visage ! N'importe quoi, c'est mon reflet dans l'armoire vitrée. Je suis seule. À moins que... Et si quelqu'un est entré par effraction ? Un SDF ? Et s'il est encore là ? Il n'y a pas de SDF à Shepton. Et l'HQ, elle sait que la maison est vide. Et si elle avait amené sa bande ici pour fumer ? Et s'ils se sont cachés quand j'ai ouvert la porte ? L'HQ, tu es derrière le rideau ? Comme si elle allait répondre. Elle préférera attendre que Dylan bloque la porte. Alors, elle me sautera dessus et je frappe les rideaux à grands coups de parapluie. Il n'y a personne. Et alors, ils sont peut-être ailleurs dans la maison.
À San Francisco, à la recherche d'oncle Teddy. Le café est à 5 minutes à pied. Je m'installe à une table pour deux, près d'une fenêtre, et je tue le temps en dévisageant tous les hommes entre 40 et 50 ans. Ceux qui passent la porte, mais aussi ceux qui traversent la rue. Et même les passants sur le trottoir. Est-ce que c'est lui ? Lui ? Lui ? Est-ce qu'il est chauve ? A-t-il une barbe ? Et s'il a une famille et des enfants ? Et s'il n'a pas de place pour nous ? Les nuages sont de plus en plus sombres. Des taches de pluie strient la fenêtre. Une femme vêtue d'un tailleur bleu marine avec un sac à bandoulière, crème et des chaussures assorties entre dans le bar. Elle est un peu trop chic pour ce genre d'endroit. Elle referme son parapluie, regarde autour d'elle et s'avance jusqu'à ma table. Zoé Bird ? Hein ? Qui êtes-vous ? Je n'ai rien fait de mal ? Non. Tout à coup, ça me frappe. Les boucles, le nez retroussé, les pommettes. Oncle Teddy ?
One thing well to make it in this world, babe. You got a woman waiting for you there. All you ever gotta do is be a good man one time to one woman, and that'll be the end of the road, babe. I know you got more tears to shed, babe. So come on, come on, come on, come on.
Donc nous avons écouté des musiques qui accompagnaient vos textes que vous avez choisis. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces choix ?
La première musique est extraite de D'Allure, composée par Olafur Arnalds. J'ai choisi cette musique parce qu'elle reflète exactement la manière dont je ressens cet extrait. J'ai trouvé que cette musique fait bien ressortir le suspense qui se dégage quand elle lit les lettres qu'elle a trouvées dans les cartons sous le lit de sa grand-mère.
La deuxième est extraite de Suite No 42, Sonata Gioconda de Nicolas Bacri et Emmanuel Bertrand. Nous l'avons choisie car il y a un rythme de plus en plus rapide qui donne une impression de panique. Le duo de violoncelle et contrebasse sur un ton grave accentue l'angoisse. Cela s'accorde bien avec le texte, puisque Zoé se retrouve seule en pleine nuit dans une maison vide, et elle entend des bruits bizarres.
La troisième est extraite de Berzina de Warren Ellis et Nick Cave. Nous l'avons choisie parce que le piano apporte quelque chose de mystique, l'allure lente laisse l'événement en suspens, ce qui correspond parfaitement à la fin du texte 1. En effet, Zoé émet une supposition. Sa cousine peut se cacher dans la maison pour la piéger. En fonction de l'idée que nous avons en tête, nous allons ressentir la musique différemment. Elle s'adapte donc à nos deux textes, bien qu'ils soient différents et qu'ils dégagent des émotions différentes. En effet, pour le début du texte 2, nous pouvons interpréter la musique d'une autre manière. Les notes de piano, de temps en temps, peuvent faire penser à des gouttes d'eau. Cette musique peut apporter du calme, de la sérénité. En effet, au début, Zoé s'installe tranquillement dans un café où Teddy lui a donné rendez-vous. La lenteur de la mélodie souligne également l'état émotionnel dans lequel se trouve Zoé, qui imagine derrière chaque homme son oncle. La quatrième est extraite de Cry Baby de Janis Joplin. Nous l'avons choisie car nous ressentons un grand soulagement au début de la musique, comme si deux personnages se retrouvaient après une grande séparation. Lorsque nous la traduisons en français, nous retrouvons cette idée. Pleure bébé, pleure bébé, pleure bébé. Chérie, bienvenue de retour chez toi. Mais tu sais, chérie, je serai toujours là si jamais tu veux de moi. Cela relie bien notre texte à cette musique, car Zoé vient de retrouver son oncle après tant d'années où elle pensait qu'il était décédé.
Durant ce projet, qu'est-ce que vous avez apprécié en particulier ?
On a apprécié le fait d'associer des musiques à un texte pour le rendre plus vivant.
Et le travail avec les deux comédiennes pour nous aider à mettre en voix nos textes sur le secret nous a beaucoup apporté sur la façon de les interpréter.
Nous vous remercions d'avoir écouté cette émission et ces lectures. Peut-être certaines vous ont donné envie de découvrir le roman dont elles sont extraites. Vous retrouverez la plupart de ces livres à la médiathèque. Ce projet n'aurait pas pu se réaliser sans le soutien de Marie-Françoise Feuillet de la médiathèque Jean Ferrat, les comédiennes de la compagnie Tungstène, la documentaliste et le professeur de français Madame de Raguenel du lycée Jules Froment et, bien sûr, l'investissement des élèves.
C'était
La Voix des Jeunes,
un programme radiophonique réalisé en partenariat avec les établissements scolaires d'Aubenas et de sa région.